à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Agora. Je suis Clémence et je suis accompagnée par Cyprien pour cette émission consacrée au Théâtre des Amandiers. L'équipe du jour est composée des étudiantes et étudiants en Master 2 Journalisme Culturel.
Autour de la table, on retrouve notre chef d'édition Marie, notre rédactrice en chef Mona et aux manettes Catherine Portalupi. Et ça commence tout de suite. Nos journalistes Marie Solvignon, Clémence Dubrana-Rollin et Clara Otia se sont rendus aux Amandiers, non pas pour assister à une représentation, mais pour découvrir ce qui s'y passe au creux de l'après-midi, lorsque le théâtre n'en est pas un.
C'est un espace où les gens peuvent venir s'installer, boire un café, un thé, avoir son ordinateur pour travailler, d'où cet accueil qu'on essaie de faire de midi à 18h. C'est mouvementé, quoi. Ouais, c'est tout le temps mouvementé. Ouais.
Cet espace dont parle Jordan, agent d'accueil au Théâtre des Amandiers, c'est celui situé juste avant la salle de spectacle. Une centaine de mètres carrés où se côtoient les fauteuils en velours, tableaux intrigants accrochés au mur, billetteries, bars et autres recoins culturels. Jordan, derrière son bureau en bois blanc, s'occupe de la billetterie.
Je regarde s'il y a des demandes par mail pour n'importe quelle demande, donc de changement, de réservation ou autre. Et après, midi, c'est vraiment le moment où on ouvre l'accès au téléphone pour que les gens nous appellent, en fait.
De son bureau, il voit ses autres collègues occupant différents postes.
On peut beaucoup quand même orienter les gens vers ces autres accès, quoi. Mais après, oui, tout ce qui est librairie, bar, non, on n'a pas vraiment beaucoup de contacts, mais on sait qu'on peut orienter les gens à leur dire « vous pouvez aller au bar, prendre quelque chose à manger avant ou après le spectacle enfin, ». On est vraiment en orientation plus, enfin, tout ce qui est information.
Et derrière le bar, justement, les journalistes de la radio Agora ont rencontré Ludovic, ou Ludo, comme il aime se faire appeler. La cinquantaine passée, Ludo a rejoint depuis quelques mois déjà l'équipe des Amandiers.
En fait, ici, on ne peut pas vraiment faire de cuisine, parce qu'il n'y a pas d'extraction, et c'est pour que ça sente le graillon dans le hall toute la journée, ça, c'est pas possible. Donc en chaud, on a des hot dogs et de la soupe. Hormis ça, on n'a que des sandwichs, des salades, des quiches froides, des offres un petit peu rapides. Ouais, voilà, c'est vraiment du snack, parce que, et puis en plus, par exemple sur Richard II, on fait plus de 500 personnes par jour, 500 spectateurs par jour. Si tu veux pouvoir servir tout le monde, tu ne peux pas commencer à faire vraiment de la cuisine. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de servir le maximum de personnes en un temps très très court.
Mais si Ludo n'est pas sur scène, lui aussi, à sa manière, entre en représentation chaque soir.
Ouais, c'est une petite représentation aussi. Y a un public, il est différent tous les jours. Donc du coup, ça peut me permettre de recycler les mêmes blagues, puisque c'est jamais les mêmes gens. Donc du coup, à chaque fois, on croit que j'innove, mais pas du tout, je l'ai dit la veille déjà. Et non, mais après, voilà, c'est vraiment l'échange, c'est vraiment cet échange-là.
Cet échange, l'agent de sécurité l'a également. Dans un recoin de la grande pièce, il observe derrière ses lunettes les caméras de surveillance et les comportements des spectateurs.
Je suis M. Baptiste Motsilas, de nationalité camerounaise, agent de sécurité, SIAP. Depuis 35 ans, aux Amandiers.
De ces dizaines d'années passées ici, il se rappelle d'une fois où le feu avait commencé à prendre.
Donc on a eu un incendie dans la direction technique dans l'ancien théâtre qui était grave. Vraiment, le feu a pris. Il a fallu que les pompiers arrivent et utilisent le lance-incendie pour pouvoir l'éteindre. Et la direction technique a été... On ne pouvait pas utiliser les locaux pendant plus de 6 mois. Il fallait refaire toute la direction technique du premier étage. Normalement, si le gardien n'avait pas été là lors de sa ronde, on aurait tout perdu. Tout.
Mais fort heureusement pour le Théâtre des Amandiers, rien de tel ne s'est reproduit depuis. Et c'est ainsi que dans un espace faisant cohabiter la culture, le partage et la gastronomie, les spectateurs découvrent bien plus qu'une simple pièce de théâtre quand ils arrivent dans ce lieu. C'était un reportage de Clara Otia, Marie Solvignon et Clémence Dubrana-Rollin.
Ils reçoivent rarement les acclamations du public et travaillent à l'ombre des projecteurs. Pourtant, leur travail est essentiel. Bérénice, Augustin, Aurore et Samuel sont allés à la rencontre de ces métiers cachés au sein du théâtre, exercés par des passionnés, et c'est Bérénice qui nous raconte.
On s'est rendu aux Amandiers, un mercredi, aux alentours de 16h. De loin, on pourrait croire que le théâtre sommeille. Mais dès qu'on s'approche, on se rend compte que dans les coulisses, ça fourmille. Chaque jour, les petites mains s'activent pour le bon déroulement des représentations. Ce soir, c'est le tambour de soie de Kaori Ito qui s'apprête à être joué. Eric Argis est directeur technique. C'est le chef d'orchestre de l'équipe. Et parfois, il doit défier le temps pour répondre aux caprices des metteurs en scène. Yamélis Pans fait partie des 11 ouvreurs du théâtre. Son rôle, chouchouter les spectateurs. Elle veille au bon déroulement du spectacle. Jean-Christophe Soucy est régisseur lumière. Il fait des allers-retours dans le hall. Le cliquetis de son harnais le suit. Ça fait bientôt 30 ans qu'il occupe le poste. Il a vu passer les metteurs en scène, les époques aussi. Et vous allez voir, il avait une petite préférence pour les années 90. On a voulu mettre sur le devant de la scène ces grands oubliés du public, ces garde-fous des amandiers qui, pour autant, ne viennent jamais saluer.
Mon rôle est directeur technique. Je suis responsable de l'équipe technique en globalité. J'essaye d'organiser leur travail et j'essaye de prévoir un peu les premières questions. Est-ce que c'est possible d'accueillir tel ou tel spectacle budgété? Combien de personnes il va falloir avoir? Je n'ai pas obligatoirement le temps, mais je veux tout voir. Si j'assiste aux répétitions, je peux être pris à partie par le metteur en scène pour, en général, nous faire des reproches. Très peu pour nous demander notre avis. S'ils sont bloqués, est-ce que j'ai des solutions à proposer? Ou un décor trop lourd? Pas assez de place en coulisses? Est-ce que c'est possible de l'évacuer dans les cintres, par exemple? On demande beaucoup de temps. Difficile à comprendre pour des gens qui répètent. Déjà 24 heures de réflexion, c'est énorme, mais voilà. Enfin, moi, je voulais être comédien, évidemment. Enfin, on voit le théâtre comme on n'imagine pas autre chose que ça. Donc, je voulais continuer à travailler là-dedans. Et que Chéreau m'adresse la parole directement en répétition, c'est un grand souvenir. Directeur technique, on ne salue pas.
Je m'appelle Yamélie Spots, je suis donc ouvreuse aux Amandiers. J'ai commencé cette saison, donc c'est tout neuf, là j'ai commencé il y a 3 mois, même pas. Le métier consiste à accueillir les gens, à les aider s'ils ont des questions, des soucis concernant le théâtre, leur place, s'ils cherchent quelque chose. Et puis bien sûr, à biper les billets, à vérifier que tout le monde soit bien installé, bien à son siège, tout ça. Et personnellement, j'adore le théâtre, j'en ai fait pendant des années, et là je suis en master d'études théâtrales. Parce qu'il y avait le lien avec le théâtre, donc j'adore, je suis très contente d'être là, l'ambiance est géniale. Revoir le spectacle, ça ne dérange pas plus que ça, je tiens à dire que je n'en avais jamais assez de Richard II, je ne dis pas du tout ça pour la promo, je vous assure que je n'étais pas du tout déçue quand j'étais en salle, je connaissais le texte par cœur à la fin, je connaissais la mise en scène par cœur, à la fin on savait quand je bouchais les oreilles.
Je suis régisseur lumière au Théâtre des Amandiers depuis pas mal d'années. J'ai arrivé au début des années Vincent. Toutes les années Chéreau, moi je suis arrivé à presque à peine. 30 ans maintenant, ouais, du coup, ouais, moi j'ai commencé en 91. Badine avec Emmanuel Béard. On est 3 régisseurs aux Amandiers. Enfin, il faut être presque bon en informatique, en plan 3D, en installation, meneur d'équipe. Je savais que je ne serais pas comédien, ça ne m'intéressait pas. Dans les années Jean-Pierre Vincent, un peu les années Martinelli, j'étais plus jeune et tout, les années 90. Il y avait une sorte de liberté qu'on n'a absolument plus dans les esprits, parce que là, maintenant, c'est plus serré partout. J'ai fait le spectacle parce que je savais que je ne travaillerais jamais dans un bureau. On s'est franchement marré. Moi, j'ai eu du bol à ce point-là. Le donjon de Gabili, du coup, en semaine, on faisait donjon. Et les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, on faisait les intégrales, on faisait donjon et on enchaînait Chimère. Ça a été des babes dans ma gueule tous les soirs. C'était très rock'n'roll. Les mentalités ont changé. Il n'y a plus cette folie, quoi. Tes électros, ils arrivent à telle heure et ils se cassent à 16h. Ils ont pas resté jusqu'à 17h pour le plaisir de rester. Nous, on restait jusqu'à 18h pour des clopinettes. Nous, on était le roi du monde.
Qui se cache derrière celle que l'on surnomme la femme de ménage? À quoi ressemble sa vie? Oussama Karfa est parti à la rencontre de Thérèse Song, employée de nettoyage du théâtre des Amandiers.
Une blouse bleue, une paire de crocs, un chignon fait à la va-vite. Telles sont les premières caractéristiques qu'on aperçoit en voyant Thérèse Song, agent d'entretien au théâtre des Amandiers. Titulaire d'un BTS électrotechnique, elle est embauchée au théâtre des Amandiers en 1994 pour y effectuer un remplacement. Initialement, c'était un travail alimentaire. Travail alimentaire qu'elle a conservé pour avoir plus de temps à consacrer à ses enfants.
Les horaires sont très très bien, je travaille de 7h à 13h, donc dans l'après-midi je suis tranquille, ce qui m'a permis de m'occuper de mes enfants.
Thérèse Song est une femme dynamique, motivée, qui ne chôme pas. Sa journée type, la voici.
Dès que j'arrive à 7h, je commence par la cuisine, parce qu'il faut que la machine à café soit propre, la cuisine, tout ça. Les techniciens arrivent à partir de 8 heures. Ils commencent par leur prendre leur café, donc il faut que ça soit propre. Après, je fais les toilettes. Après les toilettes, les loges. Et après les loges, vers 11h, 11h30, midi, je refais les toilettes pour que ça soit propre après mon départ. Et vers midi, midi et demi, voilà, je commence à m'apprêter et puis c'est la fin de la journée.
Durant sa jeunesse, elle enchaîne les jobs étudiants donnant par exemple des cours de soutien en mathématiques, sa matière fétiche. Thérèse Song ne dissimule pas sa hargne. Son métier lui apporte aussi des avantages, comme par exemple des places gratuites. Travailler au Théâtre des Amandiers lui a aussi permis de pénétrer la scène. En 2019, elle obtient un rôle dans Crash Park, pièce mise en scène par Philippe Ken.
Ça m'a beaucoup changé, c'est vraiment un autre monde. Donc j'ai fait des tournées et c'était vraiment super. Alors là, avec les comédiens, même avec le metteur en scène, Philippe Ken, qui était le directeur aussi, alors là, ça m'a, jusqu'à maintenant, j'en rêve.
Cette expérience lui permet de voyager dans des villes françaises, mais aussi dans des pays étrangers.
Les tournées, j'ai été à Saint-Pétersbourg, en Grèce, en Allemagne, à Munich, à Berlin. En France, j'ai été à Lausanne, à Lorient aussi, à Reims. Voilà. Et puis le Covid a fait son apparition, donc ça a tout stoppé après.
Cette tournée, auprès de comédiens comme Sébastien Jacobs, Isabelle Angotti ou Jean-Charles Dumay, dure un an et demi. Outre cette expérience, Thérèse Song confie ne pas avoir de relation avec les spectateurs, les représentations ayant généralement lieu le soir. Le Théâtre des Amandiers étant en travaux de rénovation depuis 2021, Thérèse Song ne cache pas sa préférence pour le travail dans le bâtiment préfabriqué.
C'est plus simple de travailler dans le bâtiment provisoire parce que c'est déjà moins grand et il y a un peu moins de travail que d'habitude, c'est plus concentré.
Que le bâtiment où elle œuvre soit provisoire ou non, Thérèse Song illumine chaque espace où elle passe par sa sympathie, son rire franc et sa joie de vivre.
Ma philosophie, c'est du moment où tout le monde va bien, je parle avec tout le monde, je souris avec tout le monde. Faut être cool dans la vie.
Une nouveauté s'invite au théâtre. Pour cette deuxième saison sous la direction de Christophe Rouck, les Amandiers mettent en place le principe des saisons partagées, réunissant quatre artistes dont le choix n'est pas dû au hasard. Mona Delahaye.
Ils sont la colonne vertébrale du projet et incarnent la nouvelle identité du théâtre. Ce sont les mots d'Anne-Marie Peignet, la directrice adjointe déléguée au développement, en accompagnant Christophe Rouck au poste de direction et de programmation, donc lui c'est le directeur du théâtre. Elle a donc participé au choix de ces quatre artistes.
Donc on a Tiffaine Raffier, Anne-Cécile Vandalem qui est belge, Julien Gosselin et Joël Pommerat. Ces quatre artistes en fait savent occuper des grandes scènes, parce que nous avons cette grand plateau de, quand même, qui aura 750 à 800 places chaque soir, donc il faut quand même avoir la possibilité que le public se déplace pour voir ses mises en scène et ses metteurs en scène. Et ce sont des artistes qui savent s'emparer de grands récits.
Ces artistes et metteurs en scène femmes sont donc associés à la mise en place du projet artistique et présenteront des spectacles ou des cartes blanches pour 2023-2024. Mais avant cette direction, Christophe Rouck a été 7 ans à la tête du Théâtre du Nord à Lille, une expérience qui se fait ressentir.
On a vraiment beaucoup aimé ces 7 années de direction au Théâtre du Nord. Et à la fois, cette région, ces artistes, etc., nous ont apporté énormément. Même les gens qui habitent là-bas, les équipes avec lesquelles on a co-construit ce projet du Théâtre du Nord et qu'on a fait développer aussi, qu'on a développé. Tout ça nous a apporté, donc on n'arrive pas neutre en arrivant aux Amandiers, on arrive avec tout notre bagage.
Parmi ces 4 noms d'artistes, on peut constater une parité, un choix pour Anne-Marie Peignet qui n'est pas dû au hasard.
Ça nous semblait logique, c'est parfois complexe, hein. On le voit sur la programmation, on n'est pas complètement encore en parité parce que malheureusement les moyens sont plus donnés, ou malheureusement, ou en tout cas c'est un constat. Depuis des années, c'est plutôt les hommes qui ont les grands plateaux, les budgets donc, qui vont avec, et les femmes sont plutôt souvent dans le jeune public ou dans des formes plus réduites, et que forcément cette contrainte de grand plateau, on a plus de mal. Quand on aura la salle de 200 ou 400 places, peut-être qu'on pourra se dire que par palier, voilà, mais pour l'instant c'était aussi... Mais évidemment que ça, on l'a en tête.
On vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour ces saisons partagées, toujours dans le théâtre éphémère, en attendant la fin des travaux de rénovation du nouveau théâtre, qui doivent, eux, se terminer en 2024.
Lieu de socialisation, le théâtre est un espace d'interaction et d'échanges importants. Pour en discuter, Guillaume est allé à la rencontre d'Anne-Marie Peignet. En charge du développement du Théâtre des Amandiers de Nanterre, elle nous explique les bienfaits de la socialisation au théâtre et son importance chez les jeunes publics.
19% des Français de 15 ans et plus se rendent au moins une fois dans l'année au théâtre. Ce chiffre est issu du dernier rapport datant de 2008 du ministère de la Culture. Il témoigne un manque d'intérêt pour le champ théâtral si aller voir une pièce n'a pas la même symbolique selon la situation sociale de chacun. Dès lors, C'est aussi au théâtre de mener des actions au niveau local. Anne-Marie Peignet nous a donné ses missions, son idée, sensibiliser les plus jeunes à l'art de la mise en scène.
Ce travail, c'est vraiment les relations avec le public. On a une direction justement du développement du public. Et dans le cahier des charges, c'est évidemment de travailler avec le rectorat de Versailles, travailler évidemment avec les enseignants, des écoles élémentaires jusqu'au lycée, des lycées généralistes jusqu'au lycée pro, des prépas, des étudiants, etc. Et ça, c'est vraiment des parcours qu'on construit.
Ce suivi pédagogique est rendu possible notamment grâce à la mise en place de différentes aides de l'État pour soulager les familles du coût d'une sortie au théâtre.
Enfin, c'est l'idée aussi de faire que le théâtre accompagne la vie grâce à l'école, et tant mieux parce qu'il y a des budgets. Le Pass Culture a aidé aussi, puisque il y a des établissements, et entre autres là, un collège auquel je pense, ils avaient dit bah, nous avant, c'était compliqué de demander aux parents et tout. Là, on a le Pass Culture, très bien, parfait, on vient avec en collectif sur un groupe.
Ces sorties ouvrent également à de nouvelles opportunités. Au théâtre, il n'y a pas que la scène, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, et ça peut donner des idées à certains.
Et on le voit bien, on travaille depuis assez longtemps dans ce milieu, enfin en tout cas, pour se dire, tiens, tout d'un coup, il y a un groupe et il y en a deux qui, pourtant, font une formation d'électricien et qui vont rencontrer le créateur Lumière. Et il va se dire, mais en fait, ça y est, je change de pas. Enfin, je continue à être électricien et continue ma formation, mon CAP. Mais après, je voudrais bifurquer pour tout d'un coup m'occuper plutôt de spectacle, de lumière sur un spectacle, plutôt que d'être électricien de bâtiment.
En somme, des sorties qui amènent à une ouverture d'esprit qui doivent perdurer.
Alors, que faire face à ces idées préconçues sur la jeunesse? Benjamin et Cyprien sont partis en quête de solutions.
Selon un sondage mené par 24 Cultures en 2022, les 18-25 ans ne représentent que 10% de la fréquentation des théâtres. Et selon une autre étude du Monde, 51% des jeunes disent ne pas être intéressés par le théâtre. Nous sommes donc partis à la rencontre de certains étudiants de l'université Paris-Nanterre afin de comprendre les raisons de ce désintérêt. Est-ce que toi, tu vas au théâtre?
Non.
Récemment, je suis pas allée. Quoi.
Franchement, pas du tout.
Pour quelle raison tu vas pas au théâtre?
Parce que j'ai un emploi du temps rempli et que du coup, quand j'ai un peu de temps, bah, je vais au cinéma.
Un manque de temps et pas forcément l'argent pour ça.
Parce que j'ai pas le temps, déjà, de base.
En plus des étudiants de Nanterre, nous nous sommes rendus au Théâtre et Centre Dramatique National Nanterre-Amandier à la rencontre de
Marik Roufman-Boriès
ainsi que
Marine Guibert
qui occupent toutes les deux le poste de chargée de relations en lien avec le public. Afin de mieux comprendre cette relation compliquée entre les jeunes et le théâtre, nous avons confronté ces actrices clés des liens entre le public et le théâtre aux réponses récurrentes de notre micro-trottoir.
Que déjà ça coûte cher, globalement en général c'est une dizaine d'euros.
C'est une réflexion qui se mène tout le temps, hein, mais on travaille justement à essayer de proposer des tarifs le plus avantageux possible. Par exemple, pour les étudiants, c'est 10 euros. On n'est pas forcément plus cher qu'une place de cinéma, surtout dans le milieu parisien. Et en plus de ça, on a aussi plein de partenariats qui se font pour faire des propositions tarifaires qui soient toujours le plus avantageuses possible au public étudiant.
Disons que les pièces de théâtre durent assez longtemps et j'ai pas vraiment le temps avec le travail et tout, donc... Franchement, c'est pour aller voir des pièces de théâtre de 3 heures. C'est pas des choses qui m'intéressent particulièrement.
Ça dépend encore une fois des formats. Effectivement, il y a des pièces qui peuvent durer 3, 4. On en accueille qui peuvent durer même plus d'une dizaine d'heures. Et à l'inverse, là, le spectacle qui vient de se terminer, on a eu un spectacle qui a été programmé pendant 3 semaines. C'était 1 heure. Parce qu'en soi, le théâtre, c'est pas un truc de vieux. Les propositions, elles sont tout aussi accessibles aux jeunes. Il faut peut-être un peu se détacher de l'idée d'un théâtre très littéraire, etc. Et que le théâtre peut prendre des formes très différentes. Que maintenant il y a beaucoup de lieux aussi qui travaillent justement à des propositions différentes, dans des cadres différents, que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et c'est comme le cinéma finalement, on peut tomber sur des propositions qui nous plaisent et puis d'autres moins, mais que tout ça, ça fait partie de l'expérience du spectacle vivant. Et qu'on se permet de le faire au cinéma, de prendre des risques et donc d'être parfois déçu d'un film, etc., que c'est la même chose avec le théâtre.
Les apprentis comédiens du Théâtre des Amandiers sont partis en octobre sur les traces des croquis de Nanterre et d'ailleurs. D'un voyage en solitaire, ils ont écrit dans l'urgence de courtes pièces. Ils ont notamment été accompagnés dans leur travail par Jean-Pierre Thibaudat, journaliste à Mediapart. Clémence nous dévoile le cadre de ce projet pédagogique, original et inhabituel.
3 semaines, sans téléphone, avec un sac à dos pour seul compagnon de voyage, c'est un exercice très particulier qui a été demandé aux 12 jeunes comédiens de la belle troupe du Théâtre des Amandiers. Initialement créés par Christophe Rauque lorsqu'il dirigeait le Théâtre du Nord, les croquis ont été importés à Nanterre lorsqu'il a pris la direction du théâtre en 2020. Cécile Garcia-Fogel pilote aujourd'hui ce projet pédagogique pas comme les autres. Les consignes sont claires, pas de téléphone donc, pas d'ordinateur non plus. Une indication géographique, se perdre dans Nanterre, dans la région parisienne ou en France. Une seule contrainte, la déconnexion. Chaque jeune artiste profitera de ce temps mort de 21 jours pour se recentrer sur soi, ses émotions, son carnet de notes. L'objectif, retranscrire cela au mieux lors du retour au théâtre et à la création. Un retour difficile puisqu'ils reviennent sonnés, parfois choqués par le voyage, et pourtant il faut écrire. Les 12 comédiens ont 2 semaines pour proposer une pièce de 10 à 20 minutes. Il est parfois compliqué de restituer ce qu'ils ont vécu. Ils sont donc aidés dans l'écriture par Jean-Pierre Thibaudat, journaliste à Mediapart, qui participait déjà au projet lorsqu'il était mené à l'École du Nord. C'est un théâtre fait dans l'urgence, la rapidité, la pression, mais qui leur permet aussi de sortir de leur zone de confort et de se confronter au théâtre, au vrai.
La restitution, le week-end du 22 et 23 octobre, leur a donc permis de confronter leurs pièces au public. Mais qu'ont-ils proposé réellement après ces 3 semaines de déconnexion ?
Avec leurs quelques notes, les comédiens ont réussi à proposer une pièce complète. Certains ont simplement raconté leur périple, comme Axel, qui l'a comparé au mythe d'Hercule, le tout dans une cuisine avec sa mère. Rosa Victoire est partie sur les traces de Proust et a restitué dans un monologue son périple d'Illiers-Combray à Deauville, où l'écrivain passait ses vacances. Gabriel, lui, est parti à Calais, au cœur de la jungle, sur la grande scène, dans un décor sombre et empli de vêtements éparpillés. Il évoque avec une poésie certaine la violence, les cris, le désespoir de ses réfugiés. La liberté artistique est totale, chaque morceau de pièce reflète la personnalité de son auteur, tantôt exubérante, tantôt poétique, tantôt militante, mais aussi le travail qu'ils ont accompli depuis leur arrivée à l'atelier des Amandiers l'année dernière. Des techniciens sont présents pour chaque représentation, jeux de lumière, son et décor sont au rendez-vous. Les croquis de Nanterre, ce sont de vraies pièces, bâties sur les projets personnels de chaque comédien. C'est un théâtre qui présente la France d'aujourd'hui, celle de la campagne profonde, de la ville, des montagnes ou des côtes. Confrontée à l'environnement qui l'entoure, la belle troupe a pu éprouver son point de vue d'artiste sur le monde, celui d'un théâtre présent partout, vraiment partout.
Merci Clémence pour cette introduction. Pour y voir plus clair, Jeannette et Louise sont allées voir ces croquis et ont rencontré Rosa Victoire et Gabriel, 2 apprentis comédiens de l'école des Amandiers. Ils sont avec nous sur le plateau pour nous parler de ce fameux exercice et de leur formation.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jeannette.
Bonjour Louise.
Bonjour Rosa Victoire Boutrin et Gabriel Gozlin-Hagendorf.
Bonjour.
Qui sont avec nous autour des micros. Vous êtes tous les 2 apprentis comédiens à l'atelier de Nanterre, où on a pu voir vos créations il y a quelques semaines lors de la restitution d'un de vos exercices en public, les croquis de Nanterre. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler de votre travail et de votre formation. Je laisse la parole à Jeannette pour commencer l'entretien.
Vous êtes donc partis 3 semaines seuls, chacun, chacune de votre côté, sans technologie. Comment vous avez réagi face à cette consigne ?
On y a rêvé pendant 1 an, c'est une graine qui est plantée, puis qui, avant même de commencer le travail et de chercher, il y a ce rêve-là un peu.
Moi, c'était assez particulier parce que j'étais à Calais, j'étais en fait dans une association avec laquelle on communiquait exclusivement par WhatsApp. On avait besoin de nos téléphones pour filmer les interactions avec la police, etc. Et du coup, j'avais quand même mon téléphone, mais j'avais supprimé toutes les applications et j'avais bloqué toutes les notifications possibles. Donc il y avait une frustration étrange d'avoir le téléphone et de pouvoir parler à personne. Au début, c'était vraiment assez difficile parce que j'avais un quotidien qui était difficile. Et du coup, de ne pas pouvoir trouver d'échappatoire, mais ne serait-ce que en regardant des vidéos de divertissement ou en parlant à sa famille, à ses amis, à nos proches, ça crée quand même une situation de difficulté où on est obligé de trouver des ressources tout seul. Mais à terme, en fait, comme c'est 3 semaines, il y a le temps aussi. Enfin, la première semaine est difficile et puis en fait, on s'acclimate assez vite.
Ouais, moi je l'ai pas allumé pendant les 3 semaines, mais pendant les 3 semaines ça a pu me, je sais pas, il y a des angoisses, moi j'ai eu des angoisses très fortes au début. Alors est-ce que c'était lié au fait de pas avoir de téléphone, parce que quand on enlève le téléphone on enlève aussi toute possibilité de complicité avec des gens qu'on connaît, donc on fait des rencontres, on rencontre des gens, mais on est toujours dans cette sorte de relation qui n'est pas complice, qui n'est pas proche.
Justement, pour arriver plus précisément sur vos pièces, d'abord Gabriel, vous êtes parti à Calais. Pourquoi déjà ce choix et qu'avez-vous observé sur place ?
Je ne sais plus exactement comment c'est né. Je pense que j'avais une volonté aussi d'aller à Calais, d'aller voir ce qui s'y passait et d'aider. Mais je n'avais jamais le temps, en fait un temps donné pour ça, long, qui me permette vraiment de sentir que je sers à quelque chose. Et en fait, en arrivant là-bas, c'est très violent. Et en fait, j'étais confronté à une telle violence de situation, une telle précarité que ça a été très difficile de me dire « je vais en faire quelque chose ». Et du coup, l'endroit du voyage est déplacé. Déjà qu'il y a des questions personnelles qui existent quand on s'engage dans une association, c'est enfin, est-ce que je le fais pour les autres, mais dans quelle mesure je le fais aussi pour moi, pour me rassurer, pour faire sa bonne action. Enfin, il y avait un peu l'impression où j'avais pas envie d'aller aux zoo, quoi. Et de ensuite dire, ben, j'ai fait une pièce là-dessus, quoi. Donc après, j'ai essayé de contourner ça, mais c'était un peu la difficulté que j'ai rencontrée là-bas, au-delà de dépasser la violence qui était là, quoi.
Rosa, vous avez fait la narration d'un périple. Vous êtes partie donc d'Hillier-Combré,
ouais,
qui a inspiré la recherche de Proust, donc, et vous êtes arrivée à Deauville.
À Cabourg.
À Cabourg, ok. Quelle est la part de fiction et de réalité dans votre pièce? Est-ce que vous êtes vraiment allée vous aventurer dans les fins fonds d'Hillier-Combré ou...
Ouais, moi j'ai passé une semaine à Hillier-Combré, parce que c'est là où il a passé ses vacances d'enfance, et c'est là d'où est tiré le premier tome de la recherche, qui est du côté de chez Swann. Ensuite, je suis allée à Cabourg, parce que c'est là où se passe le deuxième tome, qui est Allons des jeunes filles en fleurs. Et ensuite, j'ai fini à La Défense. Ça, c'était mon envie première quand on a commencé à chercher les projets. Je voulais lire la recherche dans un endroit qui n'était pas fait pour lire. Et donc, je voulais aller en entreprise. Et La Défense, ça me permettait et d'être en entreprise et d'être à Paris. Et il y a beaucoup de la recherche qui se passe à Paris. Donc, ça me permettait de réunir ces deux volontés que j'avais. Et ma troisième semaine, elle s'est modifiée. Parce qu'au final, pendant mon croquis, ma mère s'est fait opérer d'une tumeur au cerveau. Et du coup, la semaine où j'étais en entreprise, j'ai dû la diviser entre et l'entreprise et Sainte-Anne. Et du coup, il y a eu cette dernière semaine qui s'est divisée en deux temporalités. Et la temporalité de l'entreprise, qui est une temporalité très rapide, et celle de l'hôpital, qui est pour moi le lieu de l'attente, le lieu du temps perdu, vraiment. J'ai l'impression que quand on a dû choisir nos sujets, la question qu'on s'est à peu près tous posée, c'est quelle est notre obsession du moment. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des croquis si différents les uns des autres, et que par exemple Gabriel fait un croquis assez social, et moi pas du tout, quoi, une sorte de sujet un peu plus poétique.
Et puis il y a des sujets beaucoup plus légers aussi.
Ouais, beaucoup plus légers, des sujets beaucoup plus intimes. Et je crois que c'est parce qu'on s'est permis de se poser cette question de qu'est-ce que c'est mon obsession en ce moment et d'y faire confiance. Moi, j'avais une obsession avec la recherche.
Et finalement, c'est assez personnel au départ. C'est un sujet qui vous tient à cœur, entre guillemets, ou qui vous préoccupe.
Ouais.
Et ensuite, on voit ce qu'on peut en faire.
Ouais.
Finalement, comme j'ai bien dire, c'est très intime. Est-ce que ça a plus... Enfin, ce travail, cet exercice, est-ce que ça a plus nourri des compétences artistiques ou personnelles également?
Bah, c'était la première fois, et pour Gabriel et pour moi, pas pour tout le monde de notre promo, mais pour nous deux, c'était la première fois qu'on mettait en scène quelque chose. Ça nous a formé à un endroit, et dans la désillusion de ce que c'est, et dans le fantasme de ce que c'est, et dans qui on est, nous, face à cet exercice-là de la mise en scène, et de l'écriture pour Gabriel, parce que lui, il a écrit.
Oui, ouais, il y avait vraiment ce challenge-là, qui était de qu'est-ce que c'est que d'écrire un texte, déjà sur une expérience vécue, et ensuite de le mettre en scène, et d'arriver à trouver la légitimité de mettre en scène un texte qu'on a écrit, le jouer et le présenter comme si c'était Claudel, quoi. Mais en fait, c'est nous. Ça, c'est un peu l'endroit de défi qui, je pense, nous a quand même apporté à cet endroit-là, de passer le cap, en fait, et de quand même le présenter, même si on n'était pas sûr et qu'on a créé ça dans l'urgence.
Votre formation, l'Atelier des Amandiers, elle a été créée dans les années 80 par Patrice Chéreau. Et elle a formé de nombreux comédiens. Après, elle a disparu. Et c'est Christophe Roque qui, en prenant la direction du théâtre donc en 2020, qui a décidé de la relancer. Vous êtes dans votre deuxième année de formation. Quel premier bilan, peut-être, pourriez-vous tirer de cet apprentissage?
Le fait d'être dans un CDN, d'être dans un centre dramatique national, ça fait que nos intervenants sont des gens qui, des vrais acteurs du théâtre, acteurs au sens large, hein, et des metteurs en scène et des comédiens. On rencontre des gens qui jouent à l'Odéon, comme Julie Duclos, Simon Falguer, Michel Esco, des gens qui font partie du paysage du théâtre contemporain. Et ça, moi, je trouve que c'est des rencontres vraiment précieuses.
Moi, je suis d'accord sur ce point-là. En tout cas, sur le bilan qu'on a eu, on a eu autant des stages de jeu, vraiment, où là, par exemple, en ce moment, on fait un stage de jeu où on est arrêté à presque à chaque mot qu'on dit, on bosse dans le détail, et c'est passionnant. Et on alterne entre ça et des projets vraiment plus professionnels, où on monte des spectacles, on est en création, on joue. Je crois que c'est ça, en tout cas, que j'en retiens. Et...
Je crois que ce qui est intéressant avec le fait d'être à Nanterre aussi, c'est d'être au cœur d'un endroit de création. Et ça, d'être au cœur de cette machine-là, c'est assez précieux. Parce que ça permet de se projeter aussi dans ce que c'est le monde du travail.
En tant qu'apprenti professionnel du théâtre, qu'est-ce que ça fait, donc ça revient un peu sur les croquis, de se confronter pour la première fois, d'après ce que j'ai compris, de se confronter à un public extérieur, puisque les croquis c'était ouvert à tous, pas seulement à vos familles, vos amis. Les premières impressions du coup?
C'est marrant, j'ai déjà joué avant d'entrer aux Amandiers, mais là c'était la première fois qu'on jouait un peu avec le tampon Amandier, donc il y avait un peu la pression de nos potes qui viennent, qui nous ont pas vu jouer depuis 3 ans... qui me disent on va voir ce que t'es devenu après les Amandiers, quoi. Donc il y avait un côté en fait de pression, mais je pense que en tout cas pour Rosa et moi, je parle pour nous deux, mais c'était aussi en fait le fait de se confronter au grand plateau avec une salle vraiment d'inconnus. C'est là où je trouve que ça a vraiment été un apprentissage à ce niveau-là, même si ça a été un stress, parce qu'en fait ce qu'on s'est beaucoup dit, c'était que notre première manifestation publique, ça allait être non pas une chose pour laquelle on est formé, c'est-à-dire l'interprétariat, mais c'est vraiment une création personnelle avec notre écriture où on se met en danger à plein de niveaux. Donc moi j'en garde vraiment un sentiment de joie en fait de ces 2 jours de représentation où j'ai l'impression que c'était assez généreux.
Ouais, puis de se confronter à un public qu'on connaît pas, c'est ça le travail, hein. Et rapidement pendant les créations, c'est cette question-là, elle était au centre de comment je fais quelque chose qui n'est pas que compris par moi, qui ne sera pas compris que par les gens qui savent ce qui s'est passé, qui savent qui je suis, qui savent ce que je pense, qui savent ce que je produis, comment d'un coup on élargit ça et on essaie de s'adresser aussi à des gens, à des néophytes, quoi.
Et donc la formation, elle se termine en mai. Quels sont vos projets dans l'univers du théâtre et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Beaucoup de succès. là, c'est assez flou. On est quand même dans un métier où on ne choisit pas de se faire désirer par un metteur en scène, donc il y a forcément une part d'attente. Là, tout ce que nous, on peut faire, c'est travailler au mieux jusqu'à la fin de notre formation pour se donner les chances d'être embauché ou non. Ça va vraiment dépendre du bon vouloir des metteurs en scène, quoi.
On va jouer avec Simon Falguer aussi, sur le territoire de Nanterre. On a des présentations publiques avec l'atelier, et puis voilà.
Merci beaucoup, en tout cas. D'être venu et d'avoir partagé sur votre création et votre formation. Et puis, on vous souhaite plein de succès.
Merci beaucoup. Si on en a, vous le saurez, quoi, j'imagine.
Voilà. À bientôt.
À bientôt.
Ambiance scandale dans le théâtre des années 80 qui a fait l'objet du film Les Amandiers, réalisé par Valeria Bruni-Tedeschi. Qu'en penser? Comment l'appréhender? Oussama Karfa nous explique tout dans sa critique ciné.
L'histoire d'un théâtre, l'histoire de son théâtre, celui qui l'a érigé au rang de comédienne. C'est celui que représente Valeria Bruni-Tedeschi dans le film Les Amandiers, sorti le 16 novembre 2022. Retour dans les années 1980 avec des scènes qui sont, de prime abord, plutôt basiques dans l'univers théâtral. Une audition pour intégrer l'école des Amandiers. Un tas de candidats, un brin rêveur, une sélection accrue et une ambiance festive entre les camarades de promo fraîchement sélectionnés.
Aujourd'hui, vous êtes 40 et à la fin de ce stage, vous serez 12.
On est tous pris là.
Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Ferraud est le directeur du théâtre.
Eh bien,
c'est le centre de l'Europe, ce théâtre.
L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous.
Valeria Bruni-Tedeschi y met en scène le metteur en scène de son ancienne école, Patrice Chéreau, interprété par Louis Garrel, un homme tyrannique et scandaleux. Comme en témoigne l'extrait du film où une étudiante le surprend en train de consommer des substances illicites. Au premier plan de l'intrigue figure une histoire amoureuse toxique entre Stella, interprété par Nadia Tereskiewicz, et Étienne, joué par Sofiane Benacer. « Je suis fou », prévient le personnage masculin. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il tient ses promesses. Drogue, hystérie, violence, overdose, et on en passe et des meilleurs. Ce rôle est problématique, compte tenu des affaires de violence sexuelle auxquelles l'acteur est mêlé. La réalisatrice propose une scène érotique dans le confessionnal d'une église. Était-ce une façon de choquer les croyants? Dans les années 1980, le sida était encore un ovni dans nos esprits. Franck, l'un des metteurs en scène joué par Noam Edge, trompe sa femme avec des apprentis comédiennes de son école sans protection. Seulement, ce dernier est porteur de la maladie. Une frayeur frappe les personnages concernés, plongeant les spectateurs dans un suspense peu soutenable. La palme de la situation la plus comique revient, sans conteste, à celui où l'une des recalées de l'école des Amandiers prend un poste de serveuse au sein du théâtre afin de s'en approcher tout en croyant qu'une vie de rêve l'y attend. Cette scène étant précédée par les malheurs d'apprentis comédiens, le fou rire est garanti devant cette allégorie de la naïveté. Le théâtre des Amandiers échangeait avec les équipes avant que le film soit produit. Cette image renvoyée du théâtre des années 1980 est-elle encore d'actualité en 2022 ?
L'ambiance retranscrite dans le film est-elle la même de nos jours ? Cécile a rencontré Joachim Fossé, témoin des aventures de la promotion de Valeria Bruni-Tedeschi, alors qu'il travaillait au service des relations avec le public. Aujourd'hui âgé de 55 ans, ce régisseur nous partage ses souvenirs d'amour, de drogue et du sida. Un témoin d'hier et d'aujourd'hui qui crée un parallèle avec 2022.
Évoquer les Amandiers avec Joachim Fossé ne ravive pas que de bons souvenirs. Ses premiers instants au théâtre de Nanterre remontent en 77. Sa mère décroche un emploi au service des relations avec le public. Il se souvient, le ton joyeux, d'errer dans les couloirs, assister aux répétitions jusqu'à ses 16 ans, en 1983, âge légal pour commencer à travailler. Il décroche un job dans le même service que sa mère, sous la direction de Patrice Chéreau, directeur du théâtre, qu'il décrit comme exigeant, mais droit dans ses bottes. Alors adolescent, Joachim se souvient d'un entrain collectif dont il est nostalgique aujourd'hui.
J'allais trois quarts des gens, voire 95% des gens, étaient heureux d'être dans cette maison en fait.
Mais en discutant avec Joachim du film de Valérie Bruni-Tedeschi sorti au cinéma le 9 novembre dernier, un sujet est fréquemment revenu dans les échanges. Comme dans le récit autobiographique de la réalisatrice, le sida est un sujet prépondérant, comme le cinquantenaire en témoigne.
C'est un gros sujet dans le monde du spectacle, de toute façon, pas que à Nanterre à ce moment-là. Il y a l'arrivée du sida, et comme dans le théâtre, on a quand même pas mal d'homosexuels touchés, et puis des toxicomanes aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier. Et donc, c'est vrai que le sida, bah, c'est là tous les jours, à cette époque-là.
Car après le sida, Joachim Fossé décrit une période douloureuse liée à son passé aux Amandiers, la drogue. Une addiction qui s'est développée en fréquentant les deux premières générations d'écoles de Pierre Roman. De 1983 à 1986, avant de partir en cure de désintoxication. Des faits largement retracés avec le film de Valeria Bruni-Tedeschi, puisqu'il consacre de longues scènes à l'overdose de Thierry Ravel, ex-compagnon de la réalisatrice, et décédé à 28 ans.
Dans un univers un peu particulier à ce moment-là, et donc je ne sais pas si c'est facile d'en parler ou pas. Tu vois, comme j'ai commencé en fait à prendre de la cam assez tôt, par rapport à Nanterre, ça a toujours été très particulier, quoi. Passer ces années-là. Les années où il y avait de la cocaïne comme ça et d'autres drogues, il y a quand même un élève de l'école qui est mort de ça.
Mais si le sida et la drogue restent des sujets compliqués à évoquer, pour celui qui est aujourd'hui régisseur, une certaine nostalgie se retranscrit dans la voix de notre témoin. Pour Joachim, cette époque était celle des excès, mais également d'une véritable solidarité entre tous les membres des Amandiers. Des élèves de l'école aux travailleurs du théâtre, les liens étaient très forts. Une cohésion qu'il regrette amèrement aujourd'hui.
De groupe et du théâtre, non, c'est pas du tout la même que ces années-là. C'est un truc, on est dans un monde différent, quoi. Il y a des gens qui sont du côté de l'administration, qui sont dans des bureaux de l'autre côté, et il y a un croisement des gens qui se fait pas, presque une machine à café ou un truc, un rendez-vous où il y a un petit peu de relations publiques plus que là, parce que là, c'est... Le théâtre, il était ouvert. Il y avait des gens de l'extérieur qui rentraient. Il y avait une librairie. C'était un monde ouvert sur l'extérieur. Là, on n'est pas un monde ouvert sur l'extérieur.
Sur une note plus légère, le régisseur, qui a l'occasion d'interagir avec la promotion actuelle des élèves des Amandiers, nous partage quelques petits secrets. Contrairement à la drogue et au sida, l'amour n'a pas totalement quitté les murs de l'école.
Les mêmes choses. Là, il y a une école qui est là et je vois qu'il y a plein de petites histoires amoureuses dans les coins et tout. Je les connais pas, mais je vois bien.
Notre émission touche à sa fin. Ce fut un plaisir, au nom de toute la rédaction, de vous présenter le théâtre Nanterre Amandiers sous tous ses aspects.
Et on vous souhaite une excellente journée.